Frères et sœurs bien-aimés, nous contemplons ce matin le Christ, le pain vivant qui descend du ciel et qui vient, en cette messe, nourrir nos âmes, les nourrir de son enseignement dans l'Évangile, qui vient nourrir nos âmes en se donnant lui-même sans retard, sans retour, par amour, dans ce saint sacrement où il descend au plus profond de nous-mêmes, où, avec les bergers, avec nos pauvretés donc, nous l'adorons, où, avec les mages, en notre crèche intérieure, nous l'adorons, lui offrant dans la reconnaissance les présents que nous avons reçus de lui. Notre Seigneur Jésus le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Lorsqu'au temps de son incarnation, il décida de prendre chair de la bienheureuse Vierge Marie, c'était pour nous, pour venir nous sauver. Et il s'est présenté tout d'abord à nous, sous les traits innocents de cet enfant Dieu. Le Sauveur ne veut pas nous effrayer. C'est bien ce que l'archange Gabriel avait dit à la bienheureuse Vierge Marie, voyant avec quelle émotion elle contempla cet archange qui lui venait de la part de Dieu. « Ne craignez pas, Marie. » Et dans le psaume, le roi David nous a bien dit que le Seigneur était tendresse, que le Seigneur est lent à la colère, et que le Seigneur, il vient nourrir son peuple. Dans le cahier des charges du Messie, car il fallait le reconnaître au temps où il se présenterait à nous, où le bon Dieu déciderait d'envoyer en terre d'Israël le Messie tant attendu, un cahier des charges était rempli. Le Messie, il devrait rendre la vue aux aveugles. Il devrait rendre la parole aux muets. Il rendra le mouvement aux paralysés. Il nourrira son peuple. Et en fréquentant l'Évangile, aux côtés des apôtres et des disciples que nous sommes, nous rencontrons le Seigneur rendre la vue à cet aveugle. Et si tel aveugle a recouvré la vue dans l'Évangile, c'est parce que nous sommes tous aveugles. Ici-bas sur la terre, nous sommes comme aveuglés. Nous vivons sous le régime de la foi. Nous croyons ce que nous ne voyons pas encore en pleine lumière. Mais au ciel, où nous attend, où nous convie le bon Dieu, eh bien, il n'y aura plus de foi, car notre foi fera place à la vision. De même, dans l'Évangile, nous rencontrons le paralysé. Il retrouve le mouvement. « Prends ton brancard et marche !» lui dit le Seigneur. Si tel paralysé a retrouvé le mouvement, c'est parce que lui, le Sauveur, sait que nous sommes paralysés par le péché et par la conséquence du péché qui est la mort. Paralysés dans le mystère du tombeau, le Christ se relève et fait de chacun d'entre nous, selon la belle expression de l'Évangile selon saint Luc, des enfants de sa résurrection. Dans cette page d'Évangile que nous méditons ce dimanche, nous rencontrons le Seigneur. Le Seigneur attristé, qui veut se retrouver dans un lieu désert pour s'unir à son Père dans le Saint-Esprit, dans la prière. Le Seigneur vient d'apprendre le martyre de son parent, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, pour le prix d'une danse voluptueuse s'il en est, a perdu sa tête. Voilà qu'Hérodiade a demandé à sa fille qu'on lui apporte la tête de Jean le Baptiste sur un plat. Car Jean le Baptiste, dans le désert de vérité, s'était efforcé de préparer la venue du Verbe de Dieu. Est-il le Messie? Non, il n'est pas le Verbe de Dieu. Il n'est que la voix qui crie dans le désert qu'il faut se convertir, qu'il faut revenir à Dieu. Et il n'hésitait pas à dénoncer l'union adultère d'Hérode avec Hérodiade et celle-ci, dès qu'elle le put, obtint la tête de Jean le Baptiste. Le Seigneur sait qu'avec le martyre de Jean le Baptiste commence le sérieux de sa vie publique. Dans l'Évangile selon saint Jean, il nous le dit, « Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté. Je suis descendu du ciel pour accomplir la volonté de mon Père. Et quelle est-elle ? Que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. » Nous avons été chacun donnés à Dieu dans le sacrement du baptême. Nous sommes alors configurés à notre Seigneur Jésus le Christ. Et c'est par lui que nous passons de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. C'est par lui, unis à lui dans le sacrement du baptême, que nous passons avec lui de la mort à la vie éternelle. Le Seigneur sait qu'avec le martyre du Baptiste, il est temps maintenant de prendre le chemin du calvaire. Et c'est bien par amour pour nous que le Seigneur va alors affronter dans toute sa vie publique et les tentations et le tentateur. Et il en est vainqueur pour toutes les fois où nous nous laissons vaincre par elle. C'est également pour nous que le bon Dieu vient révéler qui est Dieu et ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Il vient alors poser ses actes miraculeux. Et saint Jean, le disciple bien-aimé, le plus jeune qui suit le Seigneur de près, n'utilisera jamais le mot miracle, car il sait bien qu'il ne faut pas en rester au miraculeux. Ces miracles, ce sont des signes à interpréter, des signes qui nous permettent de comprendre que, sous les traits de l'humanité du Seigneur, se tient cachée la gloire de sa divinité. Le Seigneur Jésus entend donc se retirer dans ce désert pour se recentrer dans la prière, se préparer à attiser son amour pour nous, qui va le faire passer par la passion, la mort et la résurrection. Mais voilà qu'une foule immense se met à le suivre de loin, à le suivre et à regarder où il se rend seul avec sa barque. Et voilà que sur les côtes, on le précède et que quand le Seigneur arrive en son lieu de retraite, il y a cette foule affamée et assoiffée de lui qui a les paroles de la vie éternelle. Comme l'on dit dans l'Évangile, jamais personne n'avait parlé comme cet homme-là. C'est bien Dieu, la parole créatrice, qui vient à notre rencontre. C'est lui, la parole de miséricorde, qui en relevant la pécheresse vient nous relever, car lui-même se relèvera de la conséquence du péché qu'est la mort. On a faim et soif d'entendre le Verbe de Dieu s'adresser à nous. Et le Seigneur Jésus de prêcher tout au long de la journée, et les foules sont comme rassasiées en leur âme, comme les disciples d'Emmaüs, pourrions-nous dire en cette foule-là, notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous commentait les Écritures ? Et voilà que le Seigneur va préfigurer déjà que c'est par amour pour cette foule, par amour pour nous qui sommes chacun figurés dans cette foule affamée et assoiffée de Dieu, que le Christ vient nous nourrir. Au cœur de la prière du Notre Père, il vient déposer sur nos lèvres cette demande. Et la demande centrale concerne la demande du pain. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a comme une urgence, certes, l'urgence de nos estomacs qui crient famine plusieurs fois par jour. Et si nous devons bénir nos repas, c'est parce que nous ne pouvons pas accepter toute cette nourriture sans rendre grâce à Dieu. Dieu est provident, il pourvoit à nos besoins. Donnez-nous donc aujourd'hui, car nous en avons besoin maintenant, notre pain, mais notre pain de ce jour. Mais quel est-il ce jour ? C'est ce jour que dans sa lumière prophétique, le patriarche Abraham a contemplé. En effet, La science des prophètes, par inspiration divine, le permet de voir très loin les termes de la rédemption qui déjà commence à s'opérer par eux. Abraham, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et à qui Dieu a promis qu'il aurait une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham, notre père dans la foi, lorsqu'il voit le jour de Dieu, il entrevoit chacune des étapes et contemple déjà le Christ en sa passion, contemple déjà sa victoire dans la résurrection, contemple son ascension glorieuse et voit ce que nous espérons encore ici-bas sur la terre, la victoire totale du Christ à la fin des temps, nous qui vivons en des temps où nous perdons chacun des combats pour la vie perdue, chacun des combats pour la famille perdue. Nous devrions désespérer, mais si Dieu permet l'épreuve, c'est en vue d'un bien plus grand. Nous aussi, nous avons à contempler ce jour de Dieu pour ne pas désespérer. Et lorsque le Seigneur nous fait poser cette demande au cœur du Notre Père, c'est parce que nous avons à demander à notre Père qui est aux cieux, qui nous envoie le pain de ce jour-là. Cette demande centrale du Notre Père, c'est ce que nous accomplissons à la messe. Le prêtre en votre nom, parce qu'il est ordonné pour vous, multitude qui cherchez le Seigneur et qui est affamée et assoiffée de Dieu, eh bien voilà que le prêtre va demander à Dieu le Père d'envoyer Dieu le Fils par le Saint-Esprit dans la Sainte Communion, pour que nous puissions goûter la présence du Seigneur, que nous puissions être nourris par Dieu. Alors nous recevons le pain de ce jour-là, un pain qui est celui de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ce pain, c'est la présence même de Dieu qui vient se faire pain de notre route, car il est le chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Alors comme cette foule affamée et assoiffée de Dieu, nous recevons le Seigneur dans la Sainte Communion, et alors nous l'adorons. C'est ce moment-là, et pas un autre, que dans le recueillement, nous avons à nous ressourcer en Dieu, comme le Seigneur qui veut se mettre à l'écart pour prier. Et bien voilà que lorsque nous recevons le Seigneur dans la Communion, nous nous mettons à l'écart par notre prière, et dans notre crèche intérieure, nous adorons le pain vivant qui descend du ciel, et lui affirme: celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, aura la vie éternelle. En ce premier dimanche du mois, en cette paroisse de Lu Saint-Sauveur, nous faisons mémoire du bienheureux Pascal Vergès, prêtre et martyr, qui depuis son plus jeune âge, à aucun, puis ici dès l'âge de 10 ans, était affamé et assoiffé de Dieu, venant prier devant le Saint-Sacrement de cette Église. Et au jour de sa confirmation en 1921, en cette Église, non seulement il reçut Dieu le Saint-Esprit, mais reçut cette force d'âme de répondre à l'appel du Christ qui lui demandait d'être prêtre. Lorsque, dans les tourments du Second Conflit mondial, l'abbé Vergès sera fait prisonnier avec son régiment, il demandera à Dieu le Saint-Esprit de l'aider à discerner. Discerner, car une chose est d'être prisonnier pour la patrie, autre chose est de répondre à la transformation qui lui permettrait d'être travailleur libre en Allemagne. Il est hors de question pour lui, patriote, d'aller travailler en Allemagne, travailler pour l'ennemi, car travailler pour l'ennemi, c'est ensuite affaibler la France. Si l'abbé Vergès accepte de partir pour le travail libre obligatoire, c'est parce que ces jeunes Français, 200 000 au total, déracinés de leur village et de leur cité, avaient faim et soif de Dieu, et que répondant à l'appel de son sacerdoce, il décida de se rendre là-bas pour être prêtre parmi eux. Et comme le Seigneur, dans sa passion, il fut prisonnier, il fut flagellé et il rendit ainsi son âme à Dieu. Il s'efforça de distribuer les sacrements, il s'efforça de longues heures de confesser cette jeunesse affamée et assoiffée de Dieu. et s'efforça dans ses messes clandestines eh bien de leur donner ce pain vivant qui descend du ciel. Il affirmait « Ici, tout est fait pour que nous désespérions. Et si dans ces camps, la maison close avait droit de cité, il était strictement interdit qu'il y ait une chapelle. » Par fidélité à son Seigneur, l'abbé Vergès répondit à l'appel du Christ et s'efforça eh bien, de susciter dans les âmes la résistance intérieure. Oui, notre Seigneur Jésus le Christ triomphe dans les âmes comme il triomphera au dernier jour. Et les derniers instants de l'abbé Vergès sont semblables à ceux de son Seigneur en qui il avait placé toute sa foi. Rendant son dernier souffle atteint du typhus dans l'infirmerie du camp de Sachsen, camp de concentration, car identifié comme prêtre, eh bien voilà que l'abbé Vergès entend à côté de lui un Allemand avec une blessure vive. Steiner s'était pris la porte du wagon dans la jambe volontairement puisqu'il s'était inscrit contre le nazisme dans une manifestation. L'abbé Vergès sentant son dernier souffle arriver et entendant les cris de son prochain qui suppliait quelque secours, eh bien s'efforça de rassembler toutes ses forces, de se lever pour aller faire ce qu'il pouvait pour bander la jambe de ce prochain qui hurlait. Et c'est alors que, revenant sur sa paillasse, il tomba à genoux dans un acte d'adoration et rendit son âme à Dieu. Il avait célébré ici sa première messe, affirmant sur le parvis de notre église, « Prêtre, je suis prêtre, je le serai jusqu'à la mort. » Eh bien, nous demandons à l'intercession de l'abbé Vergès que nous puissions, en ces temps où tout est fait pour nous endormir, que nous puissions cultiver nous aussi en nos âmes la résistance intérieure, que nous puissions nous aussi être affamés, assoiffés du Christ et que, par les sacrements, nous puissions être abreuvés de cette bonté de Dieu. Et nous lui demanderons, après la communion, de nombreuses et saintes vocations sacerdotales pour, en ces temps qui sont les derniers, témoigner comme lui de la fidélité totale au Christ, souverain prêtre de l'univers. Ainsi soit-il.